Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Le vendredi, c'est un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Journaliste au Monde, évidemment. Vous avez remarqué qu'on a quelques étudiants là en studio, des étudiants en master relations internationales. Il va falloir être bon, hein, Marc, aujourd'hui.
Oui, absolument.
On va parler aujourd'hui du Yémen. Cette semaine, les États-Unis ont annoncé avoir bombardé au Yémen plusieurs sites dans des zones contrôlées par les rebelles Houthis. Des actions menées en représailles à des attaques de missiles contre des navires de guerre américains. Alors si Washington ne participe pas directement aux opérations menées par une coalition arabe à la tête de laquelle on trouve l'Arabie Saoudite, elle apporte tout de même un soutien à une campagne de bombardement aérien lancée en mars 2015 par Riyad et qui jusqu'ici a fait plus de 6700 morts et au moins 3 millions de déplacés selon les chiffres des Nations Unies. Alors comment comprendre cette intervention américaine qui confirme le soutien à l'égard de l'allié saoudien? Pourrait-il se prolonger et à quel prix? Si on peut douter que Washington ne s'engage plus en avant, alors même que dans l'autre conflit majeur de la région, la Syrie, on voit bien qu'il opte clairement pour une posture de retrait, on peut s'interroger sur les liens qui l'unissent à Riyad et sur l'avenir de cette alliance. En effet, l'attaque sur Sanaa la semaine dernière attribuée à Riyad, qui a fait 140 morts et plus de 500 blessés lors du bombardement d'une cérémonie funéraire, est venue apporter un coup à la légitimité, à la fiabilité d'une alliance entre les États-Unis et la famille Saoud, ce que Riyad a qualifié d'incident regrettable et d'autant plus problématique qu'elle décrivait terriblement l'action occidentale face à la Russie dans la recherche d'une résolution du conflit syrien. C'est d'ailleurs le sens de l'éditorial du New York Times de cette semaine, indiquant que le gouvernement américain avait le devoir moral de cesser sa complicité avec l'Arabie Saoudite dans une guerre civile, je cite, qui a entraîné une catastrophe humaine dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Pour évoquer ce conflit yéménite et ses conséquences politiques et géopolitiques, deux invités avec nous en plateau. D'abord Annick Cizel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous êtes une spécialiste de la politique étrangère américaine. À vos côtés, François Frison-Roche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur au CNRS, un spécialiste des transitions démocratiques. Il en sera évidemment question pour le Yémen. Avant d'ouvrir notre débat, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit aujourd'hui nous revient du Burundi. C'est Pierre Benetti. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. On vous reçoit pour des articles publiés dans Libération, mais aussi dans l'excellente revue 21. Alors, quelques rappels. On se souvient que l'année dernière, le Burundi s'était embrasé sous l'effet de la réélection de son président Pierre Nkurunziza. Le Burundi, c'est ce petit pays de la région des Grands Lacs qui est coincé entre la RDC et la Tanzanie. Et puis au nord, on a ce voisin rwandais. Il y avait eu d'importantes manifestations quand on avait annoncé la candidature pour un troisième mandat de Pierre Nkurunziza, qui s'était finalement soldé par sa victoire en juillet 2015. Il y a quelques jours, Pierre Benetti, cette semaine, l'Assemblée nationale a voté en faveur du retrait de la Cour pénale internationale. Quelques heures plus tôt, le gouvernement du Burundi décidait d'interdire de séjour sur le territoire trois enquêteurs de l'ONU. Ce sont les rédacteurs du récent rapport de l'ONU accusant le gouvernement de graves violations des droits de l'homme. Il faut se souvenir que la procureure de la CPI avait annoncé au printemps dernier qu'elle allait ouvrir un examen préliminaire sur les violences commises au Burundi depuis avril 2015. C'est en fait l'état préalable à l'enquête. Avec ce retrait de la CPI, on voit bien que Pierre Nkurunziza cherche à échapper à d'éventuelles responsabilités sur ces violences.
Oui, ce dont on se rend compte, c'est que toutes les initiatives internationales depuis un an tombent dans l'eau. On est face à un pays qui s'enclave de plus en plus, et pourtant il est complètement acculé. De fait, le troisième mandat de Pierre Nkurunziza a commencé. On comprend pas bien lequel de tous les scénarios possibles et envisageables va advenir face à ça. Alors, ce retrait de la CPI, il n'est pas effectif pour autant tout de suite. Hein. Il faut attendre encore un an, et ça n'enlève pas du tout la portée des enquêtes qui sont en cours sur ce qui se passe.
Oui, parce que le retrait n'est pas rétroactif, évidemment.
Bien sûr,
de toute façon. Oui. Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux cette crise. Vous êtes rendu, Pierre Benetti, à Mugamba, qui est à une centaine de kilomètres au sud de la capitale, Bujumbura, à Nyagasasa, précisément, qui est une des collines de la région sur laquelle poussent des eucalyptus, des théiers, au pied desquels viennent paître des vaches en toute tranquillité. Sauf que la tranquillité, elle est peut-être qu'en apparence. Vivent ici à peu près 50 000 personnes qui sont pas très bavards, visiblement, mais qui ont fini quand même par vous dire ce qui s'était passé ici. Racontez-nous.
Oui, quand on
ce qui se passe d'ailleurs ici, parce qu'on peut le dire au présent.
Quand on passe un petit peu de temps sur place, au bout d'un moment, il y a forcément de la confiance aussi qui naît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler, qui prennent des risques pour parler. Et Mugamba est une région historiquement très marquée au Burundi, puisque c'est marqué comme une région dite Tutsi, liée à l'histoire. C'est devenu un foyer de rébellion. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement. Alors, on assiste à des incursions rebelles. Alors, c'est pas vraiment un mouvement armé, c'est des accroches avec les forces armées, les forces de police.
Et les groupes d'autodéfense, comme le Red Tabara, par exemple, qui veut dire résistance pour un état de droit.
Alors, j'ai précisé quand même que c'était une région marquée historiquement comme une région Tutsi. Ça ne veut pas dire que cette opposition est marquée par ce facteur comme si c'était essentiel. C'est une opposition qui rassemble beaucoup de gens, essentiellement des jeunes, qui sont venus à la base des quartiers contestataires de Bujumbura en 2015. Et quand les gens me parlent à Mugamba, ils disent des choses comme cette phrase quand même qui était assez marquante. On a plus peur de la police que d'éventuels rebelles, parce que les rebelles, ce sont nos enfants. Voilà, on est dans cette situation où il y a une population qui a plus peur des autorités du pouvoir que de gens qui s'opposent au troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Et pour cause, hein, il y a vraiment des ciblages assez clairs. Par exemple, il y a deux assassinats ciblés, celui de Jean-Baptiste Boni Akounye et Égide Naïmana, oui, qui ont été tués, ciblés, oui, par des policiers.
Alors, c'est un peu l'inverse, puisque je raconte justement que la police racontait qu'il s'agissait simplement d'un règlement de compte. En vérité, ce sont deux personnes qui sont des agents du pouvoir.
D'accord.
Qui étaient venus dans cette région chercher des opposants, et ils se sont fait éliminer tout simplement dans cette région.
D'accord. Et en tout cas, ce qui est très clair, c'est que vous racontez par exemple que Nkurunziza est venu lui en personne pour prévenir les populations et demander aux opposants, qu'on appelle des bandits là-bas, de se rendre, parce que sans ça, évidemment, la riposte serait terrible, en faisant par ailleurs référence à des massacres terribles qui s'étaient déroulés en 2010. Donc vous dites que très clairement, la stratégie, c'est de nier le fait qu'il existe des groupes rebelles et de refuser tout dialogue avec l'opposition. Ça, c'est la stratégie du président.
La stratégie du régime, là, depuis un an, elle s'est bien structurée sur un discours niant l'instabilité du pays, qui est quand même acculé économiquement, avec plusieurs mouvements rebelles en essence, mais en même temps sans qu'on sache vraiment leur portée. Et surtout, ce discours dit, en gros, c'est une manipulation occidentale. Depuis un an, le Burundi est dans la même situation que la Libye, que la Syrie de Bachar al-Assad, etc. Bon, la ficelle est un peu grosse, mais pour l'instant, le régime tient sur ce discours.
La question ethnique, venons-en justement à cette question, savoir un peu démêler un peu les choses. Faut rappeler que c'est un pays quand même qui a été traversé par trois grandes guerres civiles durant lesquelles il y a eu ce caractère ethnique qui a joué. 1972, plus de 300 000 morts, majoritairement des Hutus tués par l'armée dominée par les Tutsis. On a le massacre de Marangana en 88 avec 20 000 morts au moins, encore majoritairement des Hutus. Et la dernière guerre civile, 93-2006, avec quasiment 300 000 morts, majoritairement des Hutus. Est-ce que la crise post-électorale, parce que c'était ça au début au Burundi, est-ce qu'elle s'est transformée en un conflit interethnique? Il y a des Burundais qui, il y a quelques mois, parlaient de situation pré-génocidaire.
C'est une région où les mots ont une force de incroyable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit le mot génocide, ça convoque un nombre de souvenirs, de traumatismes, de discours sur l'histoire assez impressionnant. Du coup, il faut faire vraiment attention quand on les emploie. Là, on reste dans une crise post-électorale, et d'ailleurs qui concerne une bonne partie de l'Afrique aujourd'hui. Pierre Nkurunziza est à la tête d'un pays où beaucoup de gens, y compris à l'intérieur du pays, où on disait « Oh, mais de toute façon, les campagnes lui sont favorables ». Non, à l'intérieur, il est encore jugé illégitime pour ce troisième mandat, du fait, quand même, on l'a pas rappelé, du fait d'un accord de paix et de réconciliation qui avait mis fin à la guerre et qui disait on partage le pouvoir non seulement entre Hutu et Tutsi, mais on limite le nombre de mandats à deux. Cet accord était la base de la constitution burundaise. Là, on est pas dans une situation pour l'instant de guerre, c'est pas une situation de haute violence, non plus de massacre à grande échelle. On est dans une situation, c'est ce que je racontais dans Libération, ni de guerre ni de paix, quelque chose de flottant, on a l'impression, où la répression s'est accentuée à la fois à Bujumbura et à l'intérieur du pays, où face à ça, je le disais, il y a des tentatives plus ou moins armées de faire face au pouvoir. Mais en tout cas, cette répression, pour l'instant, n'a pas pris un tour totalement ethnique comme on l'attendait, même si c'est une des cartes, et c'est la carte principalement jouée par le régime, c'est de dire, regardez, c'est une rébellion fomentée depuis le Rwanda, le sous-discours, c'est-à-dire une rébellion Tutsi, puisque le Rwanda est dirigé par un Tutsi, Paul Kagame.
Je vais revenir sur justement ce jeu, entre guillemets, du Rwanda, mais d'abord pour préciser un peu les choses, Kurunziza, il est de père Hutu et de mère Tutsi. Mmh. Son père d'ailleurs avait été tué lors de violences en 1972, de violences interethniques. Mais comme c'est la filiation paternelle qui compte, il est Hutu, de facto. Est-ce qu'il est essentiellement soutenu par des Hutus, politiquement, ou est-ce qu'il y a aussi des Tutsis qui le soutiennent?
Il y a aussi des Tutsis qui le soutiennent, qui font partie de l'appareil d'État. C'est aussi un pays où on se partage le gâteau, c'est-à-dire que il y a une manne financière, des avantages auxquels il faut accéder par tous les moyens. Et là, on
dépasse les clivages. Mais comment on se partage, par critère ethnique ou par un critère géographique?
Alors comment, à la base, on devait au Burundi, après la guerre, se partager les pouvoirs selon des quotas. Voilà. Maintenant, c'est plus on est proche de la cellule qui entoure le président, plus on participe à l'histoire. Alors de fait, les gens qui comptent autour du président, ce sont des généraux, des anciens combattants de la rébellion, c'est-à-dire qui ont appris la politique pendant la guerre, dans la forêt, dans les collines, etc. Et en plus, ce sont des orphelins de 72, ce grand moment de l'histoire après l'indépendance du Burundi, ce grand moment de l'histoire collective burundaise, où des familles Hutus ont perdu de nombreux parents. En particulier ces gens-là qui sont ensuite devenus des combattants en disant « nous, on veut participer à l'histoire burundaise
». Alors, Kurunziza, il accuse le Rwanda, qui est assimilé à un pouvoir Tutsi, d'attiser les haines et de chercher à exporter finalement les haines interethniques. Est-ce que c'est une accusation justifiée selon vous, Pierre Benetti?
Pour l'instant, le Rwanda est assez peu présent hein, sur la question burundaise. Il l'a été au moment du troisième mandat. Maintenant, il a un peu disparu de la scène. Le Rwanda accueille des dizaines de milliers de réfugiés. Ça, c'est une accusation dont on voit pas bien les fondements. C'est-à-dire, il y a eu des témoignages comme quoi, effectivement, des gens qui étaient dans les camps de réfugiés au Rwanda étaient appelés au bout d'un moment à revenir vers le Burundi, mais il n'est pas du tout dit que ça soit du fait du Rwanda. Ça, c'est clair.
Alors, vous avez écrit donc des articles pour Libération, mais aussi pour le dernier numéro de la revue 21. Vous y relatez votre passage à Ngozi, qui est la ville dont est originaire Kurunziza. On est tout près, pour le coup, de la frontière rwandaise. Vous racontez comment il vient faire un tour extrêmement rapide, chronométré, hein, 11 minutes, dites-vous, pour voir le stade en rénovation, pour saluer la foule, descendre son 4x4 rutilant, il prend une pelle pour se faire prendre en photo par quelques journalistes qui ont été, j'imagine, triés sur le volet et qui vont prendre quelques clichés. Vous expliquez que c'est une ville qui s'est beaucoup développée ces dernières années à la faveur des programmes de coopération et puis ensuite grâce aux investissements, justement, des proches de Nkurunziza, qui ont notamment investi dans des hôtels. Aujourd'hui, dites-vous, la ville n'accueille plus beaucoup de touristes ou même de gens qui travaillent dans des ONG ou que sais-je encore, ou autres diplomates. On pourrait penser finalement qu'au début de la crise, qu'on appelle là-bas Amougoumé, vous dites, cette ville aurait pris frais de fait et cause pour l'enfant du pays. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Alors d'ailleurs sur ce mot, c'est assez intéressant puisque c'était le même mot qui était utilisé par les Burundais et qui est encore utilisé pour désigner la guerre civile. Donc on dit la crise, mais on entend bien ce que ça
Donc
veut dire.
Donc eux se considèrent en guerre.
D'une certaine manière, oui. Voilà. C'est pas ce qu'on nous on entend comme la guerre, mais cette instabilité est assimilée à une situation de guerre. Alors sur la région de Ngozi. Oui, moi j'étais en fait étonné, c'est pour ça que je suis parti à Ngozi, c'est que on me parlait à la fois au Burundi mais aussi chez les Burundais qui sont exilés à Paris de cette région comme étant celle du président. Ah, tu vas chez le président, on me le disait tout le temps, comme si c'était une évidence. Ngozi, c'est le fief et donc tout le monde est pour cet homme. En vérité, c'est un peu plus compliqué puisque le reportage montre bien que chaque personnes que je cite et dont je retrace le parcours a, on va dire, une double face. C'est-à-dire que on est dans un monde un peu interlope où les frontières sont très floues entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on a fait dans le passé et ce qu'on fait maintenant. Et donc on est dans une économie de la sécurité personnelle, c'est-à-dire que beaucoup de gens se protègent et pour se protéger, on évite de parler ou bien on dit d'autres choses. Ce qui fait que ça change complètement les rapports sociaux. Il y a beaucoup de masques, beaucoup de choses cachées sur ce qu'on pense vraiment.
Et vous dites par exemple que lorsque, au moment de la crise, le chef d'état-major annonce le faux départ de Nkurunziza à la radio, là il y a des habitants qui sortent dans les rues, qui exultent, et il y a des batailles qui vont avoir lieu entre eux, les partisans et les opposants de Nkurunziza.
C'est quelque chose qui revenait tout le temps dans les conversations. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les gens me disaient, mais vous savez, ici c'est chez le président, mais quand même, le 13 mai 2015, on est tous sortis, on a acheté des bières et des brochettes. Alors ça fait pas du tout plaisir au pouvoir, mais c'est la réalité.
Et aujourd'hui, la ville quand même affiche un soutien assez sans limite, on peut le dire.
C'est de la mise en scène permanente. Donc c'est ce que je raconte.
C'est étonnant, vous dites par exemple on a planté des bananiers partout, c'est en hommage au président.
Oui, parce que le président de Nkurunziza vient sur ses terres natales en bloquant les routes pendant une matinée, une journée entière, et les gens s'adaptent parce qu'il faut continuer de vivre, on continue là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même aussi dans un pays où il y a des réalités invisibles. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on comprend aussi qu'il y a les violences, il y a tout ce que les gens perçoivent directement, mais aussi des violences psychologiques incroyables. Il y a un nombre de dépressions, il y a un nombre de schizophrénies grandissantes à Bujumbura et à l'intérieur du pays. Ça, on y a difficilement accès. Mais je dirais que le Burundi est un peu à l'image d'une femme que j'ai rencontrée à l'hôpital psychiatrique de Bujumbura, qui est le seul hôpital psychiatrique du pays et qui fait un travail incroyable depuis la guerre. En fait, il est vraiment né pendant la guerre. Et dans cet hôpital, cette femme m'a raconté que une de ses filles était internée suite à des troubles nés au cours des troubles mentaux nés cette année. Une autre de ses filles a fui vers le Rwanda. Elle a plus de nouvelles. Son premier fils est mort pendant les massacres de 93. Son deuxième fils a réchappé à ces massacres et est dans une sorte de prostration à la maison, etc. C'est un pays vulnérable, extrêmement vulnérable psychologiquement, notamment aussi parce qu'on n'est pas revenu sur tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire récente, ce qui fait que cette crise, à la fois dans cette région du président ou pas, cette crise marque les esprits très très fortement.
Et c'est difficile d'être neutre justement là-dedans. Et justement, je voudrais finir avec une figure aussi qui est étonnante qu'on rencontre dans votre reportage. C'est ce jeune homme, Firmin. Il vous explique qu'il va prier à la nouvelle église, l'église du président, financée par le président. Il est Tutsi parmi les Hutus. Il vous explique que les ethnies sont une invention d'une certaine manière, ce qui est vrai, et que certains les utilisent finalement à leur profit. Mais tout le monde subit les conséquences de tout ça. Par exemple, lui, il vous explique que sa fiancée l'a quitté parce que, justement, il n'était pas de la même ethnie, que depuis, il a retrouvé une nouvelle fiancée, mais Hutu, comme lui. Donc, on voit très bien que ça touche tout le monde. Et ce qu'il vous dit, c'est que pour rester en vie, faut pas prendre parti, faut se contenter de parler à Dieu, de prier.
Oui. C'est ce qu'on voit aussi au Burundi, c'est que face à cette crise très marquante psychologiquement dont je parlais, beaucoup de gens se réfugient dans la religion. C'est aussi le cas de gens extrêmement puissants au sein du pouvoir. C'est assez inquiétant puisqu'il y a un rapport religieux et politique en même temps qui structure le pays de plus en plus.
Réaction ici en plateau peut-être, Annick Cizel, François Frison-Roche, vous qui êtes un spécialiste des transitions démocratiques, que vous inspire ce témoignage?
Le phénomène des transitions peut-être vu, évidemment, un pays, il y a eu en effet les pays est-européens, mais c'était un type de transition. Il y a les pays, j'allais dire, issus du printemps arabe, et puis il y a l'Afrique. Et là, on s'aperçoit justement que toutes ces transitions ne sont pas similaires, apportent des questions très diverses et très difficiles à résoudre, notamment les blessures que ça peut occasionner aux populations. C'est quelque chose de terrible, car ces pays vont rester marqués pendant des générations.
Merci beaucoup. Annick Cizel, un mot ?
Oui, juste un mot. Ceci, malheureusement, pour moi, fait écho, et j'étais en train de me souvenir des dates du Rwanda, mais écho depuis une génération maintenant à ce que j'appelle ces crises post-coloniales, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est-à-dire que ce sont des frontières post-coloniales qui sont en train d'exploser ou qui n'ont pas tenu compte des recompositions ethniques internes. Et ces conflits, depuis une génération maintenant, se multiplient et perdure malheureusement, effectivement, sans qu'on ait trouvé le remède miracle.
Aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Benetti, d'être passé dans nos studios. Donc, je rappelle vos articles qu'on peut relire dans, sur le site de Libération, mais aussi celui dans l'excellent 21, le numéro 36 de l'automne, qui vient d'être publié. Merci beaucoup d'être
passé. Merci à vous.
Yo, every day before election, why we gotta lose people? I'm so sick and tired of this shit, all I want is freedom. We fight to find peace, and all we get is this. Oh Lord, I'm on my knees, and whoever already gone, rest in peace. Damn. Look, let's talk about it. I got so many questions, they don't give a damn about it. You walk around my hood.
Voilà, c'est avec cette musique, Pray for Burundi. Justement, on en parlait de King Hubert, qu'on tourne notre page burundaise et qu'on se tourne du côté du Yémen pour notre sujet d'actualité internationale. Aujourd'hui, le conflit au Yémen aura-t-il raison de l'alliance entre Washington et Riyad?
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Cette semaine, les États-Unis ont, je le disais tout à l'heure, ont procédé à leur première frappe d'un site contrôlé par les rebelles Houthis, alors que jusqu'ici, ils se contentaient de participer à la coalition arabe menée par Riyad en apportant seulement un soutien dans le domaine du renseignement. Le Yémen, donc, une nouvelle fois touché quelques jours après le terrible carnage dans la capitale Sanaa, lors d'un bombardement qui a balayé 140 personnes, fait plus de 500 blessés, provoquant une immense colère.
Nous sommes venus devant le siège des Nations Unies pour réclamer le respect des droits de l'homme et dénoncer le massacre perpétré dans un lieu de recueillement, s'insurge ce manifestant. Où sont les droits de l'homme? Où sont les Nations Unies? Où est le monde?
C'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. C'était des funérailles pour une seule personne. C'est devenu des funérailles pour des dizaines de morts.
Ils étaient venus ici pour se recueillir autour d'un mort, pas pour se battre. Ils n'ont brandi aucune arme contre ces débauchés d'Al-Saoud.
Nous appelons à une commission internationale et indépendante pour enquêter sur les crimes de l'agresseur saoudien, les crimes qu'ils ont commis contre le peuple yéménite.
Voilà, donc ce bilan dramatique pour le bombardement de cette cérémonie funéraire, c'était le 8 octobre dernier, c'était l'une des attaques les plus sanglantes au Yémen depuis l'intervention armée de l'Arabie Saoudite, qui, en plus de la catastrophe humanitaire, évidemment, nous pousse à nous interroger sur l'alliance entre les Occidentaux et Riyad. Pour ce faire, Annick Cizel et François Frison-Roche sont avec nous, et bien sûr Marc Sémo, notre partenaire du Monde chaque vendredi. Marc, on commence avec vous. Le conflit syrien, il occupe, à juste titre, la plus grande place dans l'agenda diplomatique international, avec, on le sait malheureusement, avec assez peu de résultats, mais il occulte cet autre conflit, celui qui déchire donc le Yémen depuis l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite en mars 2015. Et là, on est devant une situation proprement hallucinante, Marc, parce que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en 2015, l'année dernière, elle prévoyait l'interdiction de vente d'armes à destination des combattants Houthis. En revanche, la coalition menée par l'Arabie Saoudite, elle peut sans limite s'armer, envoyer ses bombes sur la population yéménite, avec des armes par ailleurs qui sont vendues pour beaucoup par les Occidentaux. Il y a quand même un cynisme absolument énorme lorsqu'on entend les critiques qui sont justifiées, formulées à l'égard de la Russie sur la question syrienne. Comment critiquer l'action de la Russie avec son allié syrien lorsque les Américains et les Européens laissent leurs alliés saoudiens pratiquer des crimes contre les civils yéménites?
Absolument. Et d'autant que là, effectivement, les États-Unis auraient les moyens d'agir. Mais ce que l'on voit là, c'est qu'effectivement, il y a parfois des alliés qui sont très embarrassants. Et c'est le cas de l'Arabie Saoudite et de sa politique d'affirmation comme puissance régionale, par les armes, par la force, non plus simplement par le pétrole. Et c'est une influence religieuse dans toute la région qui est en train de devenir un casse-tête, avec justement cet engrenage du Yémen, hein, tu rappelais le bilan des morts. Et aujourd'hui, aux États-Unis, aussi bien la presse, tu parlais de l'éditorial du New York Times, mais le Congrès aussi, commence à être vent debout et à demander des comptes à l'administration Obama. Mais c'est, disons, un élément de plus d'une crise beaucoup plus générale des relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Hein, ça avait commencé au moment des printemps arabes, où l'Arabie Saoudite n'a pas apprécié que Washington ait soutenu les printemps arabes et lâché, par exemple, certains de ses alliés, comme le président Moubarak. Ça a empiré avec l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et maintenant, il y a un nouvel élément. Hein, le JASTA, c'est un acronyme un peu bizarroïde, mais qui est une loi qui permet de poursuivre un pays qui est coupable non seulement de complicité ou de négligence vis-à-vis du terrorisme. Et pas simplement un pays placé sur la liste des pays soutenant le terrorisme par Washington. Et évidemment, le premier visé, c'est l'Arabie Saoudite. Hein, on se rappellera que 15 des 19 terroristes étaient saoudiens. Et donc, l'Arabie Saoudite est directement visée. Obama a tenté de mettre son veto. Le Congrès est passé outre. Donc, Riyad est visée. Par ailleurs, on pourrait même, dans l'absolu, parce que c'est une loi qui est assez baroque, imaginer que l'Allemagne soit poursuivie. Après tout, Mohamed Atta, un des terroristes, avait été longtemps à Hambourg. Mais là aussi, cela secoue les relations entre les deux pays. On peut dire que cette alliance américano-saoudienne, qui était le pilier du Moyen-Orient depuis 1945, maintenant est de plus en plus sérieusement ébranlée.
Ébranlée, peut-être va-t-elle s'effondrer. Annick Cizel, réaction, Marc Semo disait l'allié embarrassant. C'est vrai qu'il y a visiblement, du côté de Washington, une réelle inquiétude sur l'action de l'Arabie Saoudite en général, en particulier sur ce qui vient d'être fait du côté de Sanaa. Visiblement, l'administration américaine se demande si même elle pourrait être inquiétée, poursuivie pour ce qui reste un crime de guerre.
Pour ce qui est reconnu de plus en plus par la communauté internationale comme des crimes de guerre, effectivement, au sol, sur le territoire yéménite, empêchant l'aide humanitaire, empêchant Washington de déployer ce qui était censé être un bouclier contre ça. C'est-à-dire quand on cherche l'inquiétude du côté de Washington aujourd'hui de se retrouver effectivement embarqué dans une accusation de soutien à ces crimes de guerre et donc de complicité, d'ores et déjà, on voit que le risque est réel parce que le département d'État et le département de la Défense sont en train de préparer les arguments. Les arguments pour contrer ceci, qui sont, alors, le veto du président Obama contre la loi du Congrès est motivé par si nous commençons à faire, à déférer des pays étrangers devant les tribunaux, ces pays étrangers peuvent en retour nous déférer devant les tribunaux au regard de la politique américaine des droits de l'homme. Ce qui semble vouloir dire donc que c'est un talon d'Achille, effectivement. Protection, bien évidemment, des troupes, mais aussi des infrastructures militaires, ce qu'Obama ne dit pas. Il dit protection des citoyens américains à l'étranger, mais évidemment des infrastructures militaires américaines, qu'elles soient sur le sol saoudien, djiboutien ou partout dans la région. C'est un jeu d'équilibriste extrêmement difficile que l'administration Obama est en train de tenter de faire. En pleine période électorale, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que cette loi que le Congrès a proposée de manière unanime, il s'agit d'une proposition de loi bipartisane, républicaine, mais aussi démocrate, votée de manière unanime à la Chambre des représentants, puis au Sénat, pour mettre en accusation l'Arabie Saoudite dans le cadre du 11 septembre, évidemment avec des visées électoralistes en soutien aux victimes du 11 septembre, mais dans le même temps, quand le veto présidentiel, pour la première fois en 8 ans de mandat d'Obama, est renversé par la quasi-unanimité au Sénat, il n'y a que le sénateur Harry Reid, chef de la minorité, qui va ne pas voter en faveur du renversement du veto. C'est-à-dire que véritablement, on a une crise institutionnel, j'allais presque dire, dans cette relation spéciale que les États-Unis entretenaient avec l'Arabie Saoudite depuis 1945, l'autre relation spéciale avec Israël, avec l'Égypte dans la région. Et la crise est à ce point que l'ensemble de la classe politique américaine, pour des raisons électoralistes, mais pas uniquement, parce que le risque de se retrouver associé du fait du soutien renseignement logistique et vente d'armes des États-Unis à l'Arabie Saoudite, c'est 1,3 milliard de dollars de vente d'armes en 2015, dont des armes...
J'ai lu des chiffres bien, bien supérieurs. Hein.
Alors, mais dont des bombes à fragmentation que Washington s'est vite arrêté au mois de mai cette année, de vendre, en tout cas officiellement, parce que les bombes à fragmentation vont toucher les populations civiles tout autant que les combattants terroristes. C'est-à-dire que cette guerre, cette façon de faire la guerre que l'administration Obama, à laquelle l'administration Obama nous a habitués maintenant, c'est-à-dire des frappes aériennes, des drones dont les décomptes nous donnent les terroristes tués. Mais les décomptes de civils sont très très difficiles à trouver, y compris pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, dans cette guerre par procuration, mais terriblement aidée au niveau logistique par les États-Unis qui se retrouvent complices. Effectivement.
François Frison-Roche, votre regard sur ce projet de loi. On disait donc le Congrès américain a voté à une large majorité ce projet de loi qui permet aux citoyens américains de poursuivre des États qui auraient assisté directement ou indirectement, voilà ce que dit le texte, des organisations impliquées dans des activités terroristes contre les États-Unis. Jusqu'ici, Obama avait fait obstacle. Là, l'obstacle a sauté. C'est évidemment quelque chose qui risque de considérablement aggraver les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui étaient évidemment déjà perturbés par l'accord sur le nucléaire iranien. François Frison-Roche.
Oui, mais tout ça, pour l'instant, ce sont des mots. Et en attendant sur le terrain, les gens sont massacrés. Surtout que le Yémen n'a jamais attaqué l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui a véritablement démarré des frappes pour rétablir, soi-disant, le président Hadi qui s'était réfugié à Riyad. Il n'y avait jamais eu de menace yéménite sur l'Arabie Saoudite. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a un pays qui avait des problèmes intérieurs, ça a dégénéré en guerre civile, et où la puissance régionale, la grande puissance régionale du Nord, a décidé d'intervenir avec l'aide, c'est vrai, des États-Unis, qui apportent une aide non seulement en armes, mais aussi pour approvisionner les avions, et surtout en logistique diverse, notamment en renseignement et en guidage des avions. Donc un pays comme les États-Unis est directement concerné.
Mais François Frison-Roche, je vous donne tout de suite la parole, Maximo, mais là j'en profite parce que c'est important. Effectivement, faut rappeler que, en gros, ce que voulait faire Riyad, c'était éliminer la rébellion Houthi, qui était soutenue, rappelons-le, par Téhéran. Alors, on ne sait plus d'ailleurs si c'est davantage mater la rébellion Houthi ou finalement contrecarrer les projets iraniens dans la région. Mais un an et demi après, on voit que le bilan, il est loin d'être reluisant. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se retrouve dans une situation où elle ne sait plus comment sortir de ce conflit.
Oui, parce qu'au départ, d'ailleurs, les dés étaient pipés. Les Houthis soutenus par l'Iran, qu'est-ce que cela veut dire? Que l'Iran soutienne politiquement les Houthis. D'accord, ils sont chiites, mais on n'a jamais vu, on n'a jamais obtenu la preuve, et je le sais d'autant plus que, étant à Sanaa de 2012 à 2014, à chaque fois qu'on demandait s'il y avait des preuves de l'intervention iranienne, on n'obtenait jamais une réponse. Or, cette région est sous microscope. Or, si on voit une carte, on voit bien que l'Iran ne peut pas intervenir comme elle peut intervenir en Syrie ou comme elle peut intervenir même avec le Hezbollah. Le Yémen est très particulier. Il n'y aurait qu'éventuellement un approvisionnement par la mer. Mais vous pensez bien qu'avec tous les navires occidentaux qui sont au sud de la mer Rouge ou dans le golfe d'Aden, ça se saurait. On n'a jamais obtenu la moindre preuve. Alors quand on dit les Houthis sont soutenus par l'Iran, oui, politiquement, parce que l'Iran, évidemment, se réjouit de voir l'image de marque de l'Arabie Saoudite se dégrader dans cette espèce de bourbier yéménite.
Mais du point de vue matériel et humain, c'est difficile d'avoir des preuves, c'est ce que vous voulez dire.
Mais oui,
il faut aussi rappeler quand même le contexte qui a... explique aussi l'intervention. Hein, quand le président Hadi a été renversé, c'était par les Houthis, avec le soutien de l'ancien président Saleh, qui est quand même dictateur tout le monde, dans l'enthousiasme des printemps arabes. Il a été renversé au cri de mort à l'Amérique et à Israël, malheur aux Juifs et victoire de l'islam. Alors, tout ça, c'est vrai que par ailleurs, les Houthis sont des chiites atypiques. C'est vrai que dans la guerre civile précédente yéménite des années 70, les Houthis étaient même du côté saoudien. Mais il y a quand même un contexte régional.
Qui les place du côté de l'Iran, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà, à la fois les place du côté de l'Iran et qui explique aussi pourquoi on a quand même... voulu éviter cette espèce de restauration de ce qu'il faut bien appeler un dictateur qui est l'ex-président Salé.
Ah, tout à fait.
François Frison-Roche.
Oui, tout à fait. Seulement, on est loin, j'allais dire, d'un conflit classique entre deux pays qui se livreraient à une bataille pour, je ne sais pas, des zones géographiques. Là, au Yémen, au départ, je vous dis, c'était un problème yéméno-yéménite qui a été...
Enfin, comme la Syrie, hein.
Oui, mais justement...
Il s'est internationalisé, il s'est régionalisé, puis internationalisé.
On s'aperçoit qu'une puissance régionale est intervenue avec le soutien de puissances occidentales. Et donc, on les a pris dans un engrenage sur des sujets qui nous dépassent complètement.
Annick Cizel.
Oui, et avec quand même des retombées sur l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est-à-dire je vais pas me faire l'avocate de l'Arabie Saoudite ici, mais avec des retombées de réfugiés, c'est-à-dire que cette guerre civile... Je suis d'accord avec vous. Cette guerre civile yéméno-yéménite a envoyé des centaines de milliers de réfugiés par ordre de pays récipiendaires, Oman, l'Arabie Saoudite, donc de l'autre côté de ses frontières, récupère des camps de réfugiés dont ils n'avaient pas forcément envie aussi. C'est-à-dire qu'entre la Syrie et le Yémen, tous les pays frontaliers aujourd'hui subissent cette pression sociale, économique, politique, militaire potentiellement, des camps de réfugiés. Et avec un arc de crise maintenant qui effectivement traverse la mer Rouge vers Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie et le Soudan, qui sont par ordre décroissant là aussi les pays récipiendaires des réfugiés du Yémen. C'est-à-dire que c'est toute la région frontalière des deux côtés du détroit du Bab el-Mandeb aujourd'hui qui est prise en tenaille d'un arc de crise qui menace effectivement, vu les instabilités politiques, on va dire, égyptiennes aujourd'hui, qui menace le contrôle de la mer Rouge, qui menace la stabilité des équilibres de force de chaque côté de la mer Rouge. Et oui, l'Arabie Saoudite, entre l'Iran d'un côté, le rapprochement Washington-Téhéran d'un côté, et cette situation qui est de plus en plus instable au sud, l'Arabie Saoudite invoque sa sécurité nationale. Donc encore une fois, je ne me fais pas l'avocate de l'Arabie Saoudite, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils ne sont pas impactés sur leur territoire. Ils le sont aujourd'hui.
Et par ailleurs, le sentiment d'insécurité, je parle de sentiment d'insécurité, chez les Saoudiens, il est là.
Il y a un isolement qui est tout à fait
oui,
réel.
Oui, même si quand même on peut dire que du temps du roi Abdallah, les choses étaient différentes qu'avec l'arrivée du roi Salman. Et là, il y a vraiment un point essentiel. Peut-être que le roi Salman, son fils qui est ministre de la Défense, a essayé de jouer la carte yéménite pour affirmer une présence dans la région sans se rendre compte qu'il rentrait dans un bourbier.
Affirmer une présence dans la région et puis affirmer aussi son pouvoir. Parce qu'effectivement,
exactement,
la mort du roi Abdallah, ça c'était début de l'année 2015, et donc l'arrivée du roi Salman, on était dans une situation, une fois encore, dans le siège des printemps arabes, où le régime était un peu déstabilisé. Et donc c'était une manière de s'imposer à l'extérieur, mais aussi du point de vue de sa propre opinion. Marc Semo.
Oui, mais justement, est-ce que finalement, aujourd'hui, en creux de cette crise, ce n'est pas une Arabie Saoudite qui veut s'affirmer à la fois comme puissance régionale, effectivement avec le roi Salman et surtout le ministre de la Défense, son fils,
on appelle MBS.
Voilà, MBS. Et en même temps, leader du monde sunnite, avec une Turquie qui est en crise. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. À la fois l'Égypte, après le coup d'État du général Sisi, est devenu un peu le protégé de l'Arabie Saoudite. Et maintenant, c'est d'ailleurs l'Arabie Saoudite qui a payé, pardon, pour les rafales. Mais maintenant, on voit que les deux pays sont d'ailleurs en friction assez forte, notamment sur le dossier syrien, où le général Sisi a une réelle compréhension, voire plus, pour la dictature de Bachar al-Assad, et l'Arabie Saoudite reste le pays le plus engagé du côté de la rébellion. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour encore plus amplifier cette crise, justement, cette politique de l'Arabie Saoudite?
Oui, il y a eu aussi l'accord en 2015, l'accord sur le nucléaire iranien, qui a déclenché une véritable paranoïa au sein de l'élite d'Arabie Saoudite. Parce qu'ils ont vu, finalement, non seulement cet accord, ensuite ce qui s'est passé en Irak, où, c'est vrai, l'Irak, il y avait une majorité chiite, et que donc l'Irak, maintenant, est dominé par les chiites. Ensuite, ce qui se passe en Syrie. Et les Saoudiens voient dans leur dos quelque chose qui est en train de se préparer, mais qui, à l'époque, se disent, à la limite, on pourrait le maîtriser, on pourrait affirmer notre force et notre capacité à régler un certain nombre de choses par la force, le Yémen. Parce qu'ils sont dans une paranoïa. Non seulement ils ont en face l'ennemi héréditaire qui est l'Iran, et ils voient des puissances qui autrefois les soutenaient, les États-Unis soutenaient l'Arabie Saoudite, faisant cet accord, ce qui fait que l'Iran, n'ayant plus à terme les sanctions et les embargos, va pouvoir retrouver une puissance considérable. Et l'Iran, c'est plus de 80 millions d'habitants. L'Arabie Saoudite, c'est 25.
Mais alors, du coup, la question, celle que soulevait tout à l'heure Marc, de cette ambition de prendre un leadership sunnite dans la région, avec cette Turquie effectivement en pleine crise, est-ce qu'elle a les moyens de le faire? On sait que l'Arabie Saoudite, elle est dans une crise économique terrible. Évidemment, la baisse du prix du baril joue pour beaucoup. Pour la première fois, le budget annuel est en baisse. C'est absolument historique, c'est inédit, c'était jamais arrivé. Est-ce que l'Arabie... Alors, on a le temps de voir encore venir un petit peu. On va pouvoir encore acheter des armes aux Occidentaux, et donc l'Alliance va pouvoir rester là. Mais est-ce qu'elle a finalement les moyens de son ambition? Est-ce qu'elle peut, à terme, comme le dit Marc, être encore ce leader du monde sunnite dans la région?
Oui, attention, le monde sunnite, je veux bien, mais après il y a différentes écoles. L'Arabie Saoudite, c'est quand même le sunnite wahhabite. La majorité du monde musulman, c'est quand même des chiites.
On n'a pas entendu Marc.
En pleine expansion quand même, ce sunnisme wahhabite que l'Arabie Saoudite exporte.
Oui, bien sûr, parce que l'Arabie Saoudite, depuis des années, fait en sorte d'exporter ce type de religion. Mais quand même, dans le monde musulman, y compris en majorité sunnite, ce sont quand même les chaféites, donc une autre école qui est majoritaire. Donc c'est vrai que l'Arabie Saoudite, là, se trouve aussi confrontée à des propres divisions internes, d'une certaine façon.
Et le prix du baril allez, est en train de remonter. Le prix du baril est en train de remonter. Les tout derniers accords permettent à l'Arabie Saoudite de renflouer un petit peu la banque.
Sauf que, et là je vais ajouter encore un élément peut-être pour complexifier un peu les choses, Annick Cizel, ce qui avait scellé l'alliance évidemment entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'est évidemment le pétrole. On se souvient de cet accord passé entre Franklin Roosevelt et l'Ibn Saoud, par lequel les premiers assuraient la sécurité du second contre le pétrole. Sauf qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus autant besoin du pétrole saoudien. Évidemment, les États-Unis sont devenus des exportateurs grâce au gaz et au pétrole de schiste. La donne a beaucoup, beaucoup changé. C'est plus l'allié aussi indispensable d'antan.
C'est plus l'allié indispensable d'antan. L'un des grands, quand on va faire le bilan dans quelques mois maintenant, des 8 années Obama, ça va être très en haut de la liste, ce retour vers une forme d'autonomie énergétique, de désengagement du Moyen-Orient face à une poudrière, effectivement. Et là, c'est tout le pragmatisme, c'est tout le réalisme de l'administration Obama qu'on a vu, à la fois de recréer des emplois, de retransformer l'industrie, le système industriel aux États-Unis, et dans le même temps, de permettre une certaine forme d'autonomie par rapport au Venezuela ou par rapport au Moyen-Orient au niveau de l'importation des matières stratégiques qui permettraient aux États-Unis de rester en guerre en cas de besoin. Et ce pragmatisme, effectivement, permet de passer en mode un tout petit peu mineur la prépondérance de l'Arabie Saoudite, aussi parce que les forces militaires américaines se sont déplacées entre-temps. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup au niveau de la marine dans la mer Rouge, mais aujourd'hui, l'Africom, le commandement militaire central pour l'Afrique, qui est en fait basé à Djibouti aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce nœud de l'autre côté du Yémen et de l'Arabie Saoudite, de ce nœud du Bab el-Mandeb, les bases opérationnelles militaires. L'Arabie Saoudite n'est pas la Turquie, voilà, c'est ça que je suis en train d'essayer de dire. L'Arabie Saoudite n'est pas la Turquie, elle n'est pas membre de l'OTAN. Et si elle veut jouer le rôle aujourd'hui de ce que la Turquie est en train de devenir, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais « a frenemy », à la fois « friend and enemy », un ami, mais un ami qui n'est pas forcément fiable, un ami qui peut vous amener de gros problèmes. Et Washington ne négociera pas, me semble-t-il, de la même façon avec l'Arabie Saoudite qu'avec la Turquie, qui est membre de l'OTAN et qui possède des bases militaires américaines ou de l'OTAN, qui sont absolument vitales pour l'intervention en Syrie. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, parce que l'arc de crise s'est déplacé vers le sud, s'est déplacé vers la Corne de l'Afrique, la Libye, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, l'Arabie Saoudite a perdu de son importance stratégique aujourd'hui. Donc j'ai pas la réponse à la question du départ, mais c'est vrai que les circonstances sont moins favorables à l'Arabie Saoudite pour la continuation d'une relation spéciale aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a encore une dizaine d'années.
Et jusqu'où ça pourrait aller justement cet éloignement? Parce que tout à l'heure on parlait de ce fameux projet qui va permettre aux Américains de poursuivre éventuellement les pays indirectement liés aux attentats du 11 septembre 2001 et donc l'Arabie Saoudite en l'occurrence. En l'occurrence, Donald Trump et Hillary Clinton étaient favorables à ce projet de loi. De toute façon, ça sera soit l'un soit l'autre. Donc dans tous les cas, on se dirige plutôt vers une forme d'éloignement accru entre Washington et Riyad. C'est ce qui se dessine, non ?
Alors, très symptomatique, aucun des deux vice-présidents, aucun des élus qui auraient pu voter n'était présent pour voter. C'est-à-dire qu'au niveau, les deux vice-présidents, Mike Pence et aucun des deux vice-présidents qui étaient en situation donc de voter, Tim McCain ne s'est pas présenté pour voter au titre de l'État de Virginie. C'est-à-dire qu'on ne vote.
Ouais, okay. Comment voilà, on interprète le geste là ?
Pas dans le marbre. D'accord. Une position qui est difficilement réconciliable quand on brigue une entrée à la Maison Blanche, même à la vice-présidence en l'occurrence. C'est-à-dire à la fois de donner raison aux victimes du 11 septembre et à la fois de s'éloigner d'un allié qui reste, pour l'armée américaine, en tout cas officiellement, un allié vital. Donc on ne vote pas, on est en campagne et on ne se présente pas pour aller voter au Congrès ce jour-là.
D'accord, donc voilà. Il est urgent de ne pas se positionner.
Il est urgent d'attendre.
François Frison-Roche.
Le compte à rebours est lancé.
Oui, et puis, François Frison-Roche. Il faut voir aussi que l'Arabie Saoudite se dit, voilà, par rapport à une situation donnée autrefois où quand même l'Irak, par exemple, était dominé par Saddam Hussein, c'était un sunnite. Bon, et même si l'Arabie Saoudite a été d'accord pour faire tomber Saddam Hussein, mais il y avait des positions Donc il voit qu'après l'intervention américaine, les chiites se sont installés en Irak. Ils disent, pour la Syrie, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite est contre Hafez al-Assad. C'est un alaouite, donc pour eux un chiite. Mais la majorité de la population en Syrie sont des sunnites. Donc ils disent, écoutez, si on a fait quelque chose pour l'Irak, estimons que pour la Syrie, il faudrait quand même que ce soit la majorité sunnite qui soit là. Donc retrouver éventuellement un allié pour essayer de retrouver certains équilibres dans la région. Mais l'Arabie Saoudite, elle ne peut plus tout faire maintenant. Même avec son argent, elle ne peut plus aller à l'encontre de certaines positions, de certaines implications, que ce soit aussi la Russie, que l'on voit jouer de plus en plus, évidemment en Syrie, mais de plus en plus aussi dans cette région. Les Chinois. Les Chinois ont décidé d'avoir une base de 10 000 hommes à Djibouti. Ça indique bien. Les Japonais ont déjà une base à Djibouti. Donc on voit bien qu'il y a des joueurs périphériques pour l'instant qui sont en train de se placer parce qu'ils s'aperçoivent bien que cette zone devient absolument stratégique, non seulement pour l'évacuation des produits pétroliers et pour aussi les transports vitaux, à la fois pour l'Europe mais aussi pour le Japon et pour la Chine, pour le passage par le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge. L'implication de l'Égypte, l'Égypte a de très mauvais souvenirs au Yémen, hein. Elle a laissé 60 000 hommes juste au moment de la guerre, la première guerre israélo-égyptienne. Donc elle a de mauvais souvenirs, mais elle a donc suivi aussi l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite paye beaucoup de choses pour l'Égypte. Mais comme disait Marc Semo, on voit maintenant une dissension entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui ne porte pas uniquement sur des sujets... Le Yémen en fait partie aussi.
Alex Cizel, quand je vous entends, on voit évidemment qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont participé à ces tensions entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Le conflit syrien, le printemps arabe, l'accord sur le nucléaire, la crise pétrolière, le 11 septembre. Finalement, où est le point de basculement? À quel moment, vraiment, ces tensions et cet éloignement a commencé? Où est-ce qu'il faut remonter? Où trouver les racines?
Alors j'étais en train de réfléchir à quel moment ça va basculer. Je vais commencer par la fin. Le lobby saoudien à Washington vient de dépenser 3 millions de dollars pour essayer d'influencer le Congrès et de stopper la loi qui est donc en train de passer malgré le veto de la Maison-Blanche. Donc le point de bascule, il est peut-être demain, ça va dépendre de ce qui se passe, bien évidemment, le 8 novembre. À quand ça remonte? Vous me posez une question piège. J'aurais presque envie de le faire remonter aux années 70 et au moment où l'OPEP prend les rênes de l'économie, d'une part de l'économie mondiale, à un moment où les États-Unis vont toucher du doigt. Aujourd'hui, on discute beaucoup, on réfléchit beaucoup à une forme de déclin relatif des États-Unis. Mais si on pense à 1973, je vais donner une année très précise, entre deuxième dévaluation du dollar, entre crise du Vietnam, évacuation du Vietnam, etc., et l'OPEP au milieu de tout ça, c'est-à-dire une véritable force diplomatico-économique qui est capable d'influencer pas simplement l'économie des États-Unis mais l'économie de tout le monde occidental. Et quand je dis de l'influencer, c'est un euphémisme. Donc quelque part, je pense que on peut trouver dans la démarche de désengagement aujourd'hui ou de reprise du contrôle, si je peux le dire comme ça, énergétique des États-Unis, ce sont aussi des leçons, sans doute, dans les suites de la grande récession de 2008, etc., de ne pas se retrouver dans la situation de dépendance, notamment de l'Arabie Saoudite, pas uniquement, mais notamment parce que c'est l'un des rares pays stables dans la région aujourd'hui, avec une production pétrolière stable aujourd'hui, prévisible en tout cas. Moi, je remonterai jusque-là, peut-être, les leçons qui sont tirées.
François Frison-Roche, vous êtes d'accord pour faire remonter finalement le début de cette prise de distance aux années 70, à 73?
Ce qu'il y a, c'est que si l'Arabie saoudite pouvait bénéficier d'une certaine stabilité, je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que l'Arabie saoudite est aussi stable qu'elle pouvait l'être autrefois. Et je pense qu'on pourrait avoir des surprises, car... par l'intermédiaire, et on reviendrait au conflit yéménite, il pourrait y avoir des guerres de succession interne, si je puis dire, qui permettraient...
En Arabie Saoudite ?
En Arabie Saoudite. Ouais. Qui pourrait remettre en question... C'est pour ça d'ailleurs, peut-être aussi, que l'Arabie Saoudite n'hésite pas à aller commettre des crimes de guerre, parce que pour l'Arabie Saoudite, il faut terminer cette question yéménite, qui est en train de coûter de l'argent, de détruire son image de marque dans le monde entier, et j'allais dire, sur le plan interne, de plus en plus difficile à gérer. Donc il va falloir qu'il y ait une solution. C'est d'ailleurs peut-être...
Une solution, un changement de régime.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut aussi envisager la fin du régime Saoud, de la famille Saoud.
Là, je n'irai pas jusque-là.
Ah, c'est certain, ils vont. Certains disent, d'ici une dizaine d'années, c'est possible.
Oui, mais je ne lis pas dans le Maroc.
À la faveur de la crise économique, des inégalités furieuses dans ce pays-là, du manque de développement de l'économie, des infrastructures qui...
Oui, car une majorité de la population saoudienne est dans la pauvreté. Il faut le savoir, malgré toute la richesse de ce pays. Heureusement qu'il y a du clientélisme et qu'il y a des gens riches pour distribuer un petit peu, mais la majorité de la population saoudienne est vraiment dans des situations souvent très difficiles.
Et donc finalement, l'issue, le nœud d'une certaine manière...
Eh bien, vous savez, quand il y a des populations fragilisées, et ensuite, elles sont plus facilement retournables.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Ah, je savais que j'allais vous faire plaisir, Brice Couturier. Vous êtes déjà là, vous intervenez dans quelques minutes. Mais évidemment, je savais que j'allais vous faire plaisir avec Dylan. Bien sûr, prix Nobel de littérature.
C'est merveilleux. C'est inespéré.
Inespéré, c'est une bonne chose?
C'est un poète gigantesque. Il est l'auteur, non seulement, j'ai vu sur Facebook des imbéciles dire où sont les œuvres, mais enfin, il a plusieurs livres derrière lui en plus de centaines de poèmes extraordinaires. Donc, effectivement, c'est un prix Nobel extraordinairement mérité.
Et puis, on n'a pas choisi ce titre par hasard parce que les temps du changement dont on parlait là à l'instant, c'est exactement ce qui est décrit, finalement, d'une certaine manière, par Bob Dylan. Et alors, lui, il était un peu plus en avance. Hein. Vous parlez des années 70, là, on est en 1963.
That it's naming for the loser now will be later to win, 'cause the times they are a-changing.
Merci beaucoup à tous nos invités, Annick Cizel, François Frison-Roche, et merci bien sûr à notre partenaire hebdomadaire Le Monde, en la personne de Marc Sémo. Merci infiniment. On vous retrouve bien sûr, Brice, tout de suite, mais avant, on fait comme à chaque fois, c'est-à-dire le petit jingle du tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Alors Brice, on va poursuivre sur cette série consacrée aux démocraties libérales. Nouvel élément apporté à votre dossier démocratie illibérale en Europe centrale, une biographie de Viktor Orban.
Oui, ce sont mes partenaires du site en ligne World Crunch qui me le signalent. Il est paru cette semaine en allemand, un livre de Paul Lendvai intitulé Orban's Ungarn, la Hongrie de Orban. Or Lendvai, journaliste et essayiste autrichien né en Hongrie, est sans doute le meilleur spécialiste de l'histoire de ce pays. Les éditions Noir sur Blanc ont eu la bonne idée de publier il y a 10 ans son ouvrage monumental « Les Hongrois, 1000 ans d'histoire » et la Hongrie de Orban paraît cette fois 60 ans après l'insurrection de Budapest contre les soviétiques réprimée dans le sang par l'armée rouge en 1956, c'était d'ailleurs en octobre et en novembre. Alors certes, Viktor Orban, né en 1963, n'y a pas pris part par définition, mais selon Paul Lendvai, il est pourtant l'héritier de cette tentative populaire de secouer le joug communiste dans son pays. En effet, l'actuel Premier ministre de Hongrie s'est rendu célèbre en 1989 en tant que président alors des jeunes démocrates en réclamant le départ des troupes soviétiques. La démocratisation du pays entamée cette année-là lui ouvrait la voie d'une carrière politique extraordinaire. Il était élu député à 26 ans, il se retrouvait Premier ministre à 35 en 1998, mais... 2002, il perd le pouvoir et s'en suivent 8 années à ronger son frein dans l'opposition. Orban est l'un des politiciens les plus doués de sa génération, d'après Paul Lendvai, qui le définit, je cite, comme un tacticien combatif et déterminé qui excelle à tirer les conclusions de ses propres défaites. Dans l'opposition, il poursuit un virage à droite et achève de faire passer sa formation du libéralisme originel au conservatisme. Orban, qui croit posséder un sens aigu du vent porteur en politique, estime en effet qu'on vit la fin d'une époque en Europe. Il a récemment déclaré « Ce sont les partis de gauche qui ont détenu jusqu'à présent le monopole d'interprétation de ce que l'Europe devait être. Si l'on passe de la gestion à la discussion sur les valeurs, alors nous avons besoin d'une solide protection de l'arrière. » Et le succès de Viktor Orban en Hongrie même est impressionnant. Rares sont les leaders européens qui peuvent se vanter d'avoir été élus deux fois de suite, 2010 et 2014, avec des scores supérieurs à 50% des voix pour leur parti, leur permettant d'atteindre au Parlement une majorité des deux tiers. Il est parvenu à marginaliser l'opposition de gauche. Quant à l'extrême droite Jobbik, la principale force d'opposition dans le pays, elle a fortement reculé. Mais Viktor Orban se croit dorénavant un destin européen. Il s'est posé en champion de l'Europe menacée par les vagues migratoires en édifiant son mur de barbelés avec la Serbie. Il a défié la chancelière allemande. World Crunch a récemment traduit et mis en ligne un article paru dans Die Welt intitulé « Comment Orban essaie d'enlever l'Europe à Merkel ?» Sous-titre « Viktor Orban est le seul leader dans l'Union européenne à avoir bénéficié de la crise des réfugiés, mais ses ambitions ne connaissent pas de frontières. »
Mais on peut quand même s'interroger, Brice, et considérer que le référendum qu'il a organisé, c'était il y a deux semaines maintenant, sur l'accueil des migrants, c'est un échec politique, Brice.
Oui, il n'a pas atteint le quorum des 50% des électeurs. Certes, sur une question posée de manière particulièrement biaisée, il n'a pu mobiliser que 43% des votants. La question, j'en rappelle, l'intitulé « Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non-hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois ?» Mais ces 43% ont voté non à près de 91% et Orban a su transformer sa défaite juridique, parce que ce référendum n'aura pas de valeur, en une victoire politique. Car le thème de la défense des frontières de l'Europe face aux hordes migratoires est extrêmement populaire en Europe centrale, où les sociétés sont culturellement assez homogènes. Cette semaine, on a assisté, notez-le, à un retournement spectaculaire de la chancelière allemande elle-même sur la question de l'accès des migrants européens aux prestations sociales. Le bénéfice des minima sociaux est désormais conditionné à une présence continue de 5 ans en Allemagne. Lorsque David Cameron avait menacé de prendre une semblable mesure en Grande-Bretagne il y a seulement 2 ans, il avait été vivement critiqué par ses collègues de l'Union européenne. Alors oui, on peut se demander si le vent n'est pas en train de tourner dans l'Europe entière et si le populiste Viktor Orban, celui que le président Juncker saluait il y a quelque temps au Conseil européen dans « d'un hello dictateur », n'est pas l'un des premiers à l'avoir senti. Et pour conclure par une touche d'humour, voici les 7 recettes pour bâtir une démocratie illibérale en Union européenne, selon le site EU Observer. Premièrement, gagner une élection en ne promettant rien de concret sinon les vieilles gloires. Deuxièmement, démanteler les contrôles constitutionnels chargés de vous avoir à l'œil. Troisièmement, prenez le contrôle de tous les médias publics et tenez serrés les médias privés. Quatrièmement, prenez le contrôle de la finance et régnez parmi les oligarques. Cinquièmement, discréditez votre opposition ainsi que les critiques occidentales. Sixièmement, créez-vous un ennemi sur mesure. Et septième, réécrivez en faveur de votre parti, les lois électorales. Mais je n'aurais sans doute pas dû citer cet article, il pourrait donner des idées à l'un ou l'autre de nos dirigeants politiques.
C'est ce que j'allais vous dire. D'ailleurs, j'ai commencé à potasser, parce que maintenant que j'ai la recette, Brice, on va pouvoir s'y mettre. Merci beaucoup, Brice, en tout cas, pour cette série passionnante consacrée aux démocraties illibérales qui avait commencé lundi, qu'on peut réécouter sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On recherche le tour du monde des idées de Brice Couturier. On réécoute et on podcast. Merci beaucoup, Brice. À lundi.